Jean-Pierre Bourguignon, Les espaces courbes.
Voudrais vous parler des espaces courbes. Dans l'histoire des mathématiques, le problème de l'espace s'est posé presque à la naissance de la discipline. Et en fait, il s'est posé de façon concrète. Comment peut-on, à partir d'un certain nombre de mesures, déduire des choses utiles, par exemple la surface d'un champ rectangulaire, que des questions plus idéales, quand on regarde le firmament, comment peut-on décrire la position de ce qu'on y voit, des étoiles, mais aussi finalement, et ça c'est une grande évolution de l'histoire des mathématiques, avec des espaces beaucoup plus abstraits. Et en fait, cette évolution s'est faite d'une conception très rigide, mais simplement parce qu'il y avait une sorte de géométrie qui s'imposait, qui est la géométrie d'Euclide, à ce qui est la situation aujourd'hui d'une richesse absolument foisonnante. Donc en fait, on est passé de la confrontation à un modèle obligatoire et à l'interdiction de regarder d'autres modèles, en fait, à maintenant, à cause de la présence d'autant de modèles différents, à une multitude d'utilisations possibles des espaces courbes. Donc commençons à la naissance de la géométrie. On trouve des ébauches de géométrie aussi bien chez les Égyptiens que chez les Chinois, que chez les Grecs. Et en fait, probablement est-il important de ne pas oublier les Chinois. Le théorème qu'on appelle le théorème de Pythagore, qui relie la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle aux longueurs des côtés, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés, en fait était connu des Chinois probablement bien avant. Et on pense même quelque chose comme 9 siècles avant Jésus-Christ. Mais le document qui a vraiment joué un rôle à la fois dans l'histoire générale des mathématiques et dans l'histoire de la géométrie, un rôle décisif, ce sont les éléments d'Euclide. Donc ce document, qui balaye beaucoup de choses en mathématiques, mais en particulier un livre entier sur la géométrie, introduit une approche qu'on appelle aujourd'hui axiomatique, c'est-à-dire il vise à définir chacun des éléments constitutifs de la géométrie. Ce sont les points, ce sont les droites, ce sont les plans, et ensuite à définir les positions relatives de ces différents éléments. Autrement dit, un point sur une droite dans un plan, des droites qui se coupent, mais aussi les confronter à la possibilité que deux droites prises dans un plan puissent ne pas se couper, ce qu'on appelle les droites parallèles. Et en fait, par rapport à ces droites parallèles, il énonce un axiome, postulat, c'est plutôt la terminologie employée, qui en fait apparaît tout à fait naturel, mais est devenu problématique par la suite. Donc ce fameux postulat d'Euclide est un postulat que tout le monde connaît, à savoir que si je prends dans un plan une droite et un point, eh bien par ce point, il passe une et une seule droite parallèle à la droite que je me suis donnée au départ. Évidemment, pour que la question ait un sens, est-il important que je prenne le point en dehors de la droite. Voilà, donc ça c'était ce fameux postulat. Et très vite, en fait, un certain nombre de gens se sont mis à questionner la nécessité d'avoir ce postulat. Autrement dit, à poser la question, n'est-il pas possible de déduire ce postulat, qui est un certain niveau dans la liste des postulats posés par Euclide, n'est-il pas possible de le déduire des postulats précédents? La question qui se posait donc est celle de l'indépendance du postulat des parallèles par rapport au postulat antérieur. Donc on va garder en tête ce postulat pendant quelques minutes là pour justement voir un peu en quoi il dit des choses sur la géométrie. La chose importante, c'est de voir qu'on peut lui donner des formulations équivalentes. Et la formulation équivalente la plus intéressante peut-être, la plus banale maintenant, est de dire que quand je prends un triangle quelconque, donc dans un plan, je prends trois points et qui déterminent ce plan, et je les joins par des segments. Eh bien, ces segments forment des angles, qu'on appelle les angles du triangle, triangle comme on dit, et la somme des angles de ce triangle vaut exactement un angle plat, ou si vous préférez, deux angles droits. Et affirmer que la somme des angles d'un triangle est exactement égale à un angle plat, c'est équivalent à l'axiome du postulat des parallèles. Et donc beaucoup de gens, dans toute l'histoire des mathématiques, se sont donc échinés, enfin, effort vraiment de mathématiciens, à décider si oui ou non on avait besoin de ce postulat ou si on pouvait le déduire des postulats précédents. Beaucoup de preuves erronées ont été proposées, certaines extrêmement subtiles. Et en fait, on a, c'est une chose intéressante, que cette obsession de décider cette chose quand même complètement, a priori sans conséquences pratiques, de savoir si le postulat des parallèles est un postulat nécessaire à la géométrie ou si on peut le déduire des postulats précédents, en fait, est devenue une question qui vraiment préoccupait un nombre significatif de mathématiciens. Ce n'était pas une bizarrerie, c'était devenu une sorte de défi. Et pourquoi est-ce que c'était un défi? Ben essentiellement parce que derrière cela, il y avait un peu la question de l'unicité de la géométrie d'Euclide. Autrement dit, peut-on imaginer d'autres géométries que la géométrie d'Euclide? Alors avant de plonger dans la période extraordinaire dans laquelle brusquement toutes ces enrichi, agrandi, qui va me permettre de parler de la courbure. Je voudrais revenir sur un certain nombre de concepts tout à fait simples relatifs aux courbes, qui en fait se sont développés au cours des siècles, mais sont devenus vraiment l'objet d'une géométrie particulière à partir du XVIIIe siècle et le XIXe bien entendu. Et donc la chose dont je veux parler, c'est une courbe qu'on peut imaginer comme une courbe plane, mais ça peut être aussi une courbe gauche, c'est pas fondamental pour ce que je veux dire. Donc ça veut dire quelque chose qui est une sorte de dessin très régulier à une dimension. Et évidemment, une des premières notions qui est importante, qui est liée à cette idée de régularité, c'est qu'en fait, si je prends un point de cette courbe, donc de cette que je peux imaginer comme une trajectoire d'ailleurs, et si je prends un point de cette courbe, eh bien en ce point-là, à cause du fait qu'elle est régulière, je peux lui trouver une droite tangente. Autrement dit, on essaye toujours de se ramener à des courbes simples qu'on connaît. Les droites sont parmi les courbes les plus simples. Et donc, on trouve en chaque point une courbe tangente. On peut imaginer, quand on fait bouger le point le long de la courbe, évidemment, la tangente change. Et ça, c'est une chose intéressante d'étudier le changement de cette tangente. Mais en fait, on a aussi une autre famille de courbes avec lesquelles on a envie de comparer notre courbe, qui sont des courbes très simples, étudiées dès Euclide, bien entendu, qui sont les cercles. Dans un plan, les cercles, c'est exactement la courbe obtenue quand, en prenant un point, le centre, et en portant dans toutes les directions la même distance, eh bien, je trouve une figure parfaitement symétrique, puisque j'ai porté la même distance, qui est donc un cercle. Et donc, si je me donne une courbe quelconque, je peux m'intéresser à trouver des cercles qui vont être tangents à la courbe en un point particulier. Alors évidemment, c'est facile de voir, à cause de la façon dont les cercles sont tracés, que si je m'intéresse à un cercle tangent à la courbe en un certain point, eh bien son centre est forcément sur la perpendiculaire à la tangente au point. Puisque, comme vous savez, toutes les tangentes au cercle sont perpendiculaires au cercle, au point d'attachement. Et alors maintenant, quand on s'intéresse, donc je prends un point sur la courbe, je prends une perpendiculaire à la tangente, et je fais varier maintenant le centre du cercle sur cette perpendiculaire. Évidemment, quand je prends des tout petits cercles, ils vont être d'un côté de la courbe. Quand je prends des très grands cercles, ils vont être plutôt de l'autre côté de la courbe. Et il y a effectivement ce phénomène très intéressant sur le plan mathématique, que entre ces deux familles de cercles, les petits et les grands, il y a juste un cercle particulier où, en général, le cercle, il est d'un côté du point au-delà de la courbe et de l'autre côté du point en deçà de la courbe. Ce qu'on appelle le cercle de courbure. Donc, vous voyez qu'il y a un rayon particulier d'un cercle qui a une propriété très particulière par rapport à la courbe. Et évidemment, en ce point de la courbe, on a envie d'attacher le nombre qui est le rayon de ce cercle, qui est le rayon de courbure. Et en fait, pour les mathématiciens, ce sera encore plus simple si au lieu de prendre le rayon de courbure, je prends en fait ce qu'on appelle la courbure, c'est-à-dire l'inverse du rayon de courbure. Et donc, voilà maintenant que je sais attacher, en chaque point d'une courbe, un nombre à cette courbe, qui est donc son rayon de courbure ou sa courbure comme on veut. Bien sûr, il y a une situation particulière, des courbes particulières comme la droite, et on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben évidemment, si je prends un point de la droite, elle est elle-même sa propre tangente, sur les perpendiculaires à cette droite en ce point, si je prends des cercles, ils sont toujours du même côté. Et évidemment, plus je m'éloigne, plus les cercles s'écrasent sur la droite, et on peut imaginer qu'un cercle dont le rayon serait infini, donc je me suis éloigné à l'infini sur la perpendiculaire, eh bien, le cercle dégénère en une droite. Et comme on a parlé tout à l'heure de la courbure comme l'inverse du rayon de courbure, le rayon de courbure devrait être infini, ce qui veut dire que la courbure d'une droite est nulle. J'en arrive maintenant donc à un moment assez crucial, qui en fait s'est étalé sur beaucoup d'années, parce que l'auteur de ce texte extraordinaire, qui s'appelle « Disquisitiones generales circa superficies curvas », les discussions générales sur les courbes tracées sur les surfaces, l'auteur est Carl Friedrich Gauss, publié en 1828, la conférence était donnée en 1827, mais qu'il a mûri pendant 25 ans, parce que Gauss était un homme patient, qui publiait peu mais des choses mûres, Paucas et Matura, c'était ça sa devise. Eh bien, dans ce texte extraordinaire, Gauss introduit, pour les surfaces cette fois, donc des objets à deux dimensions, une notion extraordinaire qui est la notion de courbure d'une surface, courbure intrinsèque. Alors ça m'oblige à revenir à ce que je disais sur les courbes, parce que maintenant que j'ai une surface, j'imagine qu'elle est régulière, aussi régulière que les courbes que je considérais auparavant. Donc ça veut dire que quand je me place en un point de cette surface, elle admet un plan tangent. Puisque je suis à deux dimensions, l'objet tangent va être un plan. Ça ne va plus être une tangente comme quand je m'intéressais aux courbes. Et alors, si je pense à cette surface vivant dans l'espace qui nous entoure, à trois dimensions, évidemment, ce plan, au point où il touche la surface, au point de contact, il a une normale, donc une droite perpendiculaire au plan. Et maintenant, je peux m'intéresser au plan, au pluriel, qui passe par cette normale et qui vont pivoter autour de cette normale. Donc évidemment, à cause du fait que j'ai choisi ces plans contenant la normale, donc de toute façon perpendiculaire en ce point à la surface, ils vont couper la surface suivant une courbe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que les fois que j'ai une courbe, je peux lui attacher en un de ces points sa courbure. Et maintenant, quand je fais pivoter mon plan autour de cette normale, évidemment, la courbure de la surface change. Et en fait, elle change entre deux nombres, un nombre maximum et un nombre minimum. Et la chose fantastique que Gauss démontre dans son article, des discussions générales sur les courbes tracées sur les surfaces, il démontre ce qu'il appelle le théorema egregium, un théorème suprême de son article, dans lequel il démontre que si je m'intéresse cette fois au produit du minimum de courbure de toutes les courbes obtenues en coupant la surface par un plan perpendiculaire, et si je multiplie la courbure minimum par la courbure maximum, eh bien, je trouve une quantité qui, elle, a des vertus extraordinaires, puisque cette quantité, elle est accessible à des êtres qui ne vivraient que sur la surface. Donc, du coup, je n'ai plus besoin de cette troisième dimension qui m'a permis de fabriquer mes courbes intersection, de fabriquer mes courbures maximum, mes courbures minimum. Mais en fait, il y a une sorte de géométrie intrinsèque portée par la surface. J'accède à un des invariants de cette géométrie, justement en trouvant la courbure, par ce procédé de multiplication du minimum et du maximum. Alors ça, c'est une découverte extraordinaire, puisque pour la première fois, on voit apparaître l'idée qu'un espace, la représenté par cette surface dans l'espace à trois dimensions, peut avoir une sorte de géométrie en elle-même, intrinsèque, et qu'un des invariants importants qu'on peut attacher à cette géométrie, en chaque point, c'est sa courbure. Alors une des choses extraordinaires qui a probablement retardé la publication par Gauss de son article et du fait qu'il ait donné cette conférence, c'était qu'il voulait avoir une formule absolument propre pour décrire cet invariant, de telle sorte qu'on puisse calculer cet invariant très simplement, aussi simplement que possible. Et en fait, déjà l'idée même qu'on puisse s'affranchir de la façon dont on a plongé la surface dans l'espace à trois dimensions est en soi une découverte extraordinaire. C'était la naissance dans la géométrie d'une catégorie nouvelle qui était la notion de la courbure. Cette notion n'était présente avant que dans le cas des courbes, mais dans le cas des courbes, la notion de courbure est très directement liée à la façon dont la courbe vit dans l'espace à deux ou trois ou quatre dimensions, comme on veut. Et donc, elle n'est pas attachée à la courbe intrinsèquement. Elle est attachée à la courbe dans sa façon de vivre dans un espace plus grand. Là, pour les surfaces, la découverte fondamentale, c'est d'une certaine façon d'avoir identifié la possibilité d'attacher un invariant nouveau à une géométrie intrinsèque. Alors évidemment, la surface la plus banale, c'est le plan. Et quand on plonge un plan dans l'espace à trois dimensions, qu'on fait la construction qu'on a évoquée avec les surfaces, donc on prend la normale, on fait pivoter des plans autour de la normale, tous ces plans vont couper le plan qui nous intéresse suivant des droites. Et on a vu tout à l'heure que les droites étaient à courbure nulle. Donc là, le fameux maximum de courbure de toutes les courbes qu'on trouve en coupant, et le minimum de courbure, c'est toujours zéro. Donc en fait, ça ne bouge pas. Et donc le produit de zéro par zéro, c'est zéro. Donc le plan est à courbure nulle. Alors vous me direz, quel peut bien être le rapport avec cette découverte par, ou cette invention par Gauss de la courbure d'une surface? Eh bien en fait, pratiquement au même moment, et dans le cas de Gauss, indiscutablement, il avait déjà vraiment réfléchi à ça, apparaissent brusquement, en tout cas de façon révolutionnaire, le défi par au moins deux mathématiciens indépendamment de définir des géométries non euclidiennes. Autrement dit, des géométries qui vérifient tous les axiomes habituels de la géométrie, mais qui violent l'axiome des parallèles. Et d'une certaine façon, la conséquence de la définition ou de l'introduction de ces géométries non euclidiennes va être, bien entendu, que, eh bien, on se rend compte que l'axiome des parallèles, il est indispensable de le mettre, puisqu'on peut fabriquer d'autres géométries qui ne vérifient pas cet axiome et qui, d'une certaine façon, ont autant le droit que les autres de s'appeler géométrie. Alors, qui sont ces mathématiciens extraordinaires? Eh bien, Nicolas Lobachevsky, qui est un mathématicien qui vivait à Kazan, donc c'est en 1830 vraiment qu'il publie un texte. Et un autre mathématicien, hongrois celui-là, János Bolyai, qui en fait, quand je l'appelle mathématicien, ce n'est pas tout à fait correct. János Bolyai est en fait un officier qui s'ennuyait dans ses garnisons, qui avait un père, Wolfgang Bolyai, qui était un ami intime de Gauss. Et il demandait à son père de lui donner des éléments de réflexion. Et donc, parmi les éléments de réflexion fournis par son père, à János Bolyai, il y avait celui de la définition possible de géométrie non euclidienne. Et finalement, János Bolyai a publié ses trouvailles comme appendice d'un article de son père, prouvant qu'il ne se sentait pas lui-même vraiment géomètre. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit effectivement de nouveaux modèles de géométrie pour lequel on a eu un peu de peine à les représenter et faire accepter ces nouvelles géométries. Et Lobachevsky est d'une prudence extraordinaire quand il la définit. Il prend bien soin de dire que cette géométrie, on n'en trouve pas vraiment trace dans le monde sensible qui nous entoure. Et en fait, il y a un échange épistolaire entre Gauss et Wolfgang Bolyai, qui est Wolfgang Bolyai, le père de János, ayant envoyé à Gauss un texte expliquant cette nouvelle géométrie et demandant à Gauss son opinion. Et Gauss répond « J'ai de la peine à louer ce texte parce que si je le fais, je devrais me louer moi-même », sous-entendant qu'il avait lui-même mis la main sur ces géométries, mais qu'il s'était abstenu d'en parler parce que le modèle dominant à cette époque, c'était que la seule géométrie possible, c'est la géométrie euclidienne. Donc affirmer qu'il existe d'autres géométries que les géométries euclidiennes pouvaient apparaître comme une sorte de violation du bon sens, de choses absolument folles. Et d'ailleurs, il y a un rapport sur Nicolas Lobachevsky fait par un inspecteur à l'université de Kazan, disant que vraiment on gaspille l'argent des contribuables en payant des professeurs, de tels professeurs qui en vont jusqu'à contester les axiomes de la géométrie euclidienne. Donc il a fallu du temps pour que cette idée soit bien acceptée. Et alors en fait, la chose qui est importante, c'est que ces géométries non euclidiennes, auxquelles appartient aussi la géométrie euclidienne, d'une certaine façon, enfin, ces géométries peuvent se représenter en fait de façon très simple. Donc bien entendu, on a la géométrie habituelle, la géométrie euclidienne, qui est celle à courbure nulle, et c'est là où on va se raccorder avec la courbure. Il y a aussi la géométrie de Lobachevsky ou de Bolyai, qu'on appelle aujourd'hui la géométrie hyperbolique, pour la raison qu'effectivement on peut la représenter comme la géométrie induite sur une surface qui est un hyperboloïde dans l'espace à trois dimensions. Et puis il y a la géométrie donc, qui est une géométrie à courbure négative, et ensuite il y a la géométrie sphérique, qu'on connaissait bien, que les astronomes utilisaient depuis déjà très longtemps, mais dont personne n'avait eu l'idée qu'elle était une concurrente de la géométrie euclidienne. Alors de quoi s'agit-il sur cette géométrie sphérique, plus facile à décrire? Eh bien tout simplement, on prend une sphère Prenons la de rayon 1 pour qu'elle soit la plus simple possible dans les calculs qu'on peut faire avec elle. C'est bien connu que les plus courts chemins sur la sphère sont les grands cercles. Autrement dit, ce qu'on va appeler droite dans la géométrie sphérique, ça va être les grands cercles. Alors bien évidemment, si je prends un grand cercle, donc une droite dans cette géométrie, si je prends un point extérieur à ce grand cercle, je ne vais jamais arriver à trouver une parallèle, puisqu'une parallèle, ça devrait être un grand cercle passant par le point extérieur à un grand cercle, et tous les grands cercles se recoupent. Tous les grands cercles se recoupent. Donc violation du postulat des parallèles. Et donc cette géométrie, en fait, elle est caractérisée par le fait que si on calcule la courbure au sens de Gauss de cette géométrie, on trouve que sa courbure vaut exactement plus 1. Alors que la géométrie euclidienne est une géométrie à courbure 0, courbure nulle. Et la géométrie hyperbolique, dans le modèle normalisé, si on normalise l'hyperboloïde comme on a normalisé la sphère de rayon 1, eh bien, va avoir une courbure moins 1. Donc ces géométries non euclidiennes sont des géométries qui ont la vertu d'être des espaces à courbure constante, négative, nulle ou positive. Jusqu'à maintenant, je me suis intéressé aux objets, disons, du monde qui nous entoure assez naturellement, les courbes, les surfaces, l'espace à trois dimensions dans lequel nous vivons. Mais évidemment, les mathématiciens aiment bien aller au-delà. Et celui qui a franchi cette nouvelle dimension, cette nouvelle étude des espaces, c'est Bernard Riemann, un des grands mathématiciens du 19e siècle pour sûr. Et il l'a fait dans des circonstances assez exceptionnelles, qui étaient celles de la défense de sa thèse en 1854. Dans la tradition allemande, au-delà de la présentation des travaux du chercheur, Bernard Riemann en l'occurrence, il était traditionnel que le jury propose trois sujets à la réflexion du candidat, et que le jury en fait choisisse parmi ces trois sujets seulement, en gros, une semaine avant la soutenance. Et dans le jury de Bernard Riemann, il y avait Carl Friedrich Gauss, et le sujet qui avait finalement été choisi par jury était le sujet des hypothèses sur lesquelles la géométrie était fondée. Dans le court laps de temps pendant lequel Riemann a préparé cette présentation de ce sujet imposé, il a visiblement fait franchir à la géométrie une étape assez décisive. De quoi s'agit-il? Eh bien, Bernard Riemann s'est préoccupé de ce qu'il est nécessaire de se donner sur un espace en général, puisque lui il se place d'emblée dans un espace à n dimensions, autrement dit où j'ai besoin de n paramètres pour repérer un point dans un tel espace. Donc ce qui généralise évidemment le fait que sur une courbe j'ai besoin d'un paramètre, sur une surface j'ai besoin de deux paramètres, dans l'espace à trois dimensions j'ai trois coordonnées pour repérer un point. Et donc il s'est préoccupé de ce dont il avait besoin pour par exemple mesurer la longueur des courbes. Donc si je trace une courbe dans un tel espace, en chacun de ces points, donc évidemment j'ai n coordonnées pour repérer ce point, mais évidemment si je trace une courbe, si je parcours la courbe, je vais avoir un vecteur vitesse, et je vais vouloir mesurer la longueur de ce vecteur. Donc finalement si j'ai un élément de mesure pour mesurer la longueur de ce vecteur en chaque point, eh bien je vais pouvoir déterminer la longueur de la courbe simplement en intégrant, comme on dit en mathématiques, toutes ces longueurs des vecteurs vitesse le long de la courbe. Évidemment, la chose qui est déterminante, c'est comment définit-on cette géométrie? Eh bien, on la définit avec ce qu'on appelle aujourd'hui un produit scalaire. C'est ce que privilégie Riemann dans sa construction. Et évidemment, ce produit scalaire, il n'y a aucune raison qu'il soit constant. Autrement dit, d'un point à l'autre de l'espace, à une dimension, le produit scalaire peut changer. Donc, autrement dit, si je l'écris avec des coordonnées, eh bien, les coefficients de ce produit scalaire vont changer d'un point à l'autre. Et la chose extraordinaire dans ce texte, publié après la mort de Riemann, décrivant donc ces hypothèses sur lesquelles la géométrie est fondée, eh bien, c'est que il y a très peu de formules, mais il y en a une dans lesquelles il montre que si on choisit bien le système de coordonnées dans cet espace, il est possible de décrire la façon dont évolue ce produit scalaire, évolue ces coefficients, en les comparant à la valeur au point où on est, mais on s'intéresse au comportement au voisinage, eh bien, il remarque qu'il y a une quantité mathématique très précise, un peu compliquée, qu'on appelle aujourd'hui le tenseur de Riemann-Christoffel, qui permet de mesurer la déviation de la géométrie qu'il considère à la géométrie qui serait une géométrie à coefficient constant, donc en fait une géométrie euclidienne. Et ce coefficient, c'est justement la courbure. Et là, il fait le raccord avec les travaux de Gauss. Autrement dit, il retrouve dans le cas des surfaces, donc des espaces à deux dimensions, le calcul de la courbure introduite par Gauss, mais il est capable de le généraliser à toutes les dimensions. La complication vient de plus on croît en dimension, plus le nombre de paramètres qui sont contenus dans la courbure croît. Et en fait, cette croissance est assez vertigineuse, puisque par exemple à 4 dimensions, on a 20 composantes pour ce tenseur de Riemann. Mais c'est évidemment une chose qui est fondamentale que Riemann ait été capable de concevoir la généralisation de ce qui avait été introduit par Gauss dans toute dimension. Et en fait, il a créé une géométrie générale, qu'on appelle la géométrie riemannienne. Et là aussi, la jonction avec les géométries non euclidiennes que j'ai évoquées précédemment se fait très simplement. Les géométries non euclidiennes, hyperboliques, sphériques ou euclidiennes, sont tout simplement, encore une fois, des géométries à courbure constante. Mais cette fois, il faut exprimer la notion de courbure correctement pour qu'on puisse parler de courbure constante. Mais ça se fait assez simplement, par exemple, en s'intéressant à des surfaces à deux dimensions plongées dans l'espace à n dimensions, et en disant que pour chacun des plans à deux dimensions en ces points, eh bien, quelle que soit la façon dont je mesure la courbure de Riemann, sur ce plan à deux dimensions, je trouve toujours le même nombre. Donc je retrouve la constance, cette fois pour tous les deux plans qui sont plongés dans l'espace à n dimensions. Donc vous voyez que là maintenant, on dispose d'une notion de courbure beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, et en fait qui a intrigué pendant très très longtemps. Et alors peut-être la chose la plus concrète qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que ça redonne, comme Gauss l'avait compris d'ailleurs, une façon extrêmement simple et intuitive de retrouver la courbure, parce que dans les espaces à la Riemann, je peux m'intéresser, donc même déjà les espaces à deux dimensions, comme le faisait Gauss, à ce qu'est la notion de cercle. Donc je prends un point, je me promène dans toutes les directions sur une distance petit r, je trouve une courbe, évidemment si je ne vais pas trop loin, je trouve une courbe tout à fait régulière, et je peux m'intéresser à la longueur de cette courbe. Et j'ai dit que dès que je suis dans un espace riemannien, je sais mesurer la longueur des courbes. Et à ce moment-là, on sait bien dans l'espace euclidien, la longueur d'un cercle, c'est 2π que multiplie le rayon. Eh bien, dans un espace courbe, eh bien, la longueur est plus nécessairement 2π que multiplie le rayon, mais elle doit être corrigée par un facteur qui est 1/6 de la valeur de la courbure au point que multiplie le cube du rayon. Autrement dit, on voit bien que la courbure est accessible, comme je l'avais évoqué précédemment, à des êtres contraints de vivre sur la surface, puisque pour eux, ils peuvent, à partir d'un point, mesurer la distance r, ensuite mesurer la longueur du cercle de rayon r, et ils vont voir, suivant la mesure qu'ils font, ils vont avoir une idée de l'écart par rapport à la géométrie euclidienne. Et on retrouve que la géométrie euclidienne est particulière en ce sens que, quel que soit le point que je prends, et en fait, quel que soit le rayon, la formule de calcul de la longueur du cercle de rayon R va être toujours 2πr. Dès que je suis dans un espace courbe, d'un point à l'autre, la longueur de ce cercle va varier. Si ma courbure est positive, puisque la formule consistait à soustraire 1/6 de la valeur de la courbure fois le cube du rayon, eh bien, je vois bien que sur les espaces courbes à courbure positive, la longueur des cercles va être plus petite, et c'est ce qu'on voit sur la sphère. Si on prend la situation sur la sphère à deux dimensions, dans l'espace à trois dimensions, si je pars du pôle nord, que je m'intéresse donc au cercle de rayon R à partir du pôle nord, ce qu'on appelle les parallèles, eh bien on voit bien que la longueur des parallèles est en fait déterminée par la formule, c'est 2π que multiplie le sinus du rayon, pas le rayon lui-même, mais le sinus est plus petit que le rayon dès que je m'éloigne. En fait, c'est même pire que ça, quand je prends les parallèles, je pars du pôle nord, j'arrive jusqu'à l'équateur qui sera le plus grand des parallèles, et après ça se met même à décroître, puisque c'est donné par le sinus. Et évidemment, si je vais au pôle sud, le cercle de rayon exactement pi, puisque j'ai fait pi sur 2 pour aller à l'équateur, je me déplace de pi pour aller jusqu'au pôle sud, en fait le cercle au pôle sud, il a exactement comme valeur 0, parce que sinus de pi, c'est 0. Et en fait, on a la chose particulière de la géométrie sphérique, que ce qui devrait être des grands cercles deviennent des petits cercles. Donc ça, c'était la situation des espaces à courbure positive. Dans le cas des espaces à courbure négative, on est dans la situation opposée, au sens où les cercles vont avoir des longueurs qui sont supérieures à la longueur euclidienne, et qui est liée au fait que l'image typique de la surface qui est à courbure négative, c'est la forme de la selle de cheval. Et on voit bien que si je pars du centre de la selle, quand je vais dans certaines directions, je vais descendre, dans certaines directions, je vais monter. Et donc, pour arriver à compenser les montées et les descentes, eh bien, mon cercle centré au centre de la selle, on voit bien qu'il va être plus long que le cercle euclidien. Donc voilà cette, disons, approche plus intuitive de la courbure, qui était accessible déjà chez Gauss, mais surtout avec Riemann, on a maintenant à sa disposition une richesse géométrique extraordinaire qui a permis d'incorporer les géométries non euclidiennes dans un environnement d'une beaucoup plus grande richesse. Je voudrais parler un tout petit peu d'un personnage qui, dans la foulée de Bernard Riemann, bien sûr, mais dont l'apport à la géométrie est souvent un peu sous-estimé. Il s'agit de Hermann von Helmholtz, peut-être le dernier savant universel. Il a passé une grande partie de sa vie à être un médecin, c'est lui qui a fait en gros, toute l'instrumentation de l'ophtalmologie qu'on connaît aujourd'hui, à part les choses vraiment modernes, mais en tout cas l'instrumentation classique. Il a ensuite fait de la physique, on le connaît en électromagnétisme, mais il a aussi eu des contributions mathématiques intéressantes. Et il a publié, très peu après la publication du mémoire de Riemann, posthume, comme je l'ai dit, un autre mémoire. Donc le mémoire de Riemann s'appelait « Hypothesen, welche der Geometrie zur Grundlegen », les hypothèses sur lesquelles la géométrie est fondée. Et donc Helmholtz a publié un texte qui porte le titre « Tatsachen, welche der Geometrie zu Grunde liegen ». Donc « Tatsachen » en allemand, ça veut dire « les faits ». Donc il voulait opposer une sorte de vision concrète de la géométrie à la vision abstraite et hypothétique de Riemann. Et en fait, dans ce texte, on trouve une étude assez remarquable, justement, de ces géométries généralisées, introduites par Riemann, mais qui ont en plus des propriétés d'avoir un très grand nombre de transformations qui les préservent. Donc ce qu'on appelle des isométries. Donc des transformations qui, quand on prend une figure, redonnent une figure qui est, du point de vue géométrique, la même, puisqu'elle est isométrique. Et en fait, le texte plus connu dans lequel ce point de vue est développé est dû à Felix Klein, dans ce qu'on appelle souvent son programme d'Erlangen, parce que c'était sa leçon inaugurale dans la ville allemande d'Erlangen. Et en fait, c'est pour la géométrie un changement assez radical et pour les espaces courbes, une sorte de canonisation fantastique. Qu'est-il dit dans ces textes? Mais il est dit en gros qu'une géométrie, c'est exactement l'ensemble des propriétés qui sont invariantes par un groupe de transformations. Donc finalement, pour comprendre une géométrie, je dois d'abord comprendre toutes les transformations qui la conservent. Et quand il y en a suffisamment, eh bien, ça arrive à la caractériser. Parce qu'évidemment, si je prends une géométrie générale, au sens de Riemann, avec des bosses un peu partout, je ne vais pas trouver de transformation qui la préserve. Bien entendu, quand je m'intéresse à la géométrie euclidienne, eh bien, les isométries sont connues depuis longtemps. Il y a évidemment les translations, simplement pousser une figure dans une direction tout entière sans la déformer. Mais il y a aussi les rotations, c'est-à-dire autour d'un point fixe, simplement tourner les choses. Et évidemment, ces transformations qui engendrent toutes les isométries de la géométrie euclidienne. Mais de la même façon, sur la sphère, j'ai parlé de la géométrie sphérique, on a aussi des transformations qui sont à peu près aussi riches que dans le cas du plan. C'est un groupe de transformations différent, mais en tout cas, il s'apparente à celui de la géométrie euclidienne. Il a les mêmes dimensions. Et dans le cas de la géométrie hyperbolique, on trouve aussi encore des isométries en aussi grande quantité que dans la géométrie euclidienne ou la géométrie sphérique, mais là encore avec une structure algébrique différente. En tout cas, cette nouvelle étape avec Felix Klein, avec Hermann von Helmholtz, elle est, du point de vue de la géométrie, un mariage entre la géométrie au sens classique, celle des figures, et l'algèbre, puisqu'on voit qu'il y a des objets algébriques qu'on appelle les groupes de transformation, la façon dont ces opérations géométriques se multiplient entre elles, qui en fait codent la géométrie. Donc on voit apparaître donc cette nouvelle façon d'envisager la géométrie d'un point de vue beaucoup plus algébrique et beaucoup moins, disons, visuel. Je voudrais parler maintenant de l'apport à ces questions d'Henri Poincaré. Henri Poincaré a été un mathématicien qui a vécu à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui a contribué à beaucoup de sujets différents de mathématiques. Mais il a aussi contribué à la géométrie d'une façon presque philosophique. Il a d'une certaine façon, dans l'histoire que j'ai essayé de brosser de la géométrie, il était assez remarquable qu'on était confronté assez régulièrement à la façon dont la géométrie rend compte du monde sensible qui nous entoure. Et le principal obstacle qui a été rencontré pour l'introduction des géométries non euclidiennes était que rien dans les mesures que l'on peut faire dans le monde qui nous entoure ne nous mettait sur la piste de ces géométries non euclidiennes. Et donc c'était d'une façon la confrontation de la géométrie au monde sensible censée imposer la géométrie euclidienne comme seule géométrie possible. Nous avons vu que du chemin a été parcouru et qu'il fallait donner de la place à d'autres géométries que la géométrie euclidienne. En tout cas, une des choses fondamentales qu'a fait Poincaré dans divers textes, sur par exemple la science et l'hypothèse, plusieurs textes destinés à un grand public, d'ailleurs c'est une chose très intéressante, il a justement repris la discussion sur un plan philosophique du rapport de la géométrie avec le monde sensible. Et la chose assez décisive, parce que c'est un peu un tournant, c'est une affirmation catégorique de l'indépendance du développement des mathématiques et du monde sensible. Et donc il insiste lourdement sur quels sont les axiomes qui doivent présider à une géométrie, et il en tire la conclusion extrêmement importante, du point de vue philosophique bien sûr, que les axiomes de la géométrie ne sont que des conventions. Et pourquoi une géométrie est-elle plus vraie qu'une autre? Et il dit non, il n'y a aucune raison de dire qu'une est plus vraie qu'une autre, simplement elle peut être plus commode qu'une autre. Donc suivant les situations dont on veut rendre compte, et donc évidemment les situations les plus simples, les plus naturelles auxquelles on rencontre, font appel à la géométrie euclidienne, mais seulement parce qu'elle est la plus commode pour décrire ces situations. Et donc ça c'est une chose tout à fait décisive, parce que cette distance à prendre entre le développement mathématique et la façon dont les modèles mathématiques étaient utilisés pour rendre compte de situations concrètes, en fait, a même perverti la discussion et l'expansion des géométries non euclidiennes très longtemps, puisque même on trouve au-delà de 1870 des soumissions comme note au compte-rendu de l'Académie des sciences en France, par des mathématiciens français et pas des moindres, qui justement contestent ces géométries non euclidiennes, en partie pour de très très mauvais arguments, des arguments nationalistes, en disant que ça c'est de la géométrie allemande et pas de la géométrie française. Mais bien entendu, un certain nombre d'académiciens se sont quand même élevés contre ces affirmations qui mélangeaient de façon inacceptable des déductions faites de façon nécessaire, qui sont le cœur des raisonnements mathématiques, et la confrontation à des éléments, disons, du monde sensible qui nous entoure. En tout cas, je crois qu'il ne faut pas négliger cette contribution d'Henri Poincaré, parce que là, cette fois, on est dans un monde libéré d'a priori, dans lequel les géométries non euclidiennes et les espaces courbes peuvent trouver toute leur place, et nous allons voir que leur place va être immense. Dans ma galerie de portraits, il y a aussi un personnage un peu sous-estimé, sur lequel je voudrais dire quelques mots quand même. Il s'agit du mathématicien italien Gregorio Ricci Courmastro, souvent appelé seulement Ricci, parce que, d'abord, il a une contribution essentielle à la géométrie riemannienne, parce qu'il est le premier, en 1888, à avoir vraiment compris qu'un des outils aujourd'hui absolument indispensables pour comprendre les mathématiques, en tout cas cette partie des mathématiques, et la physique théorique aussi, et celle de dérivation covariante, qui était implicite dans les travaux de Bernard Riemann, développée un peu de façon, disons, technique et presque symbolique par Christoffel, Bruno Christoffel, mais sans que Christoffel ait vraiment compris ce qu'il faisait. Et donc dans ce texte, Ricci Courmastro donne une définition tout à fait satisfaisante de cet objet géométrique, et cet objet géométrique a la vertu de conduire très naturellement à la définition de la notion du tenseur de courbure de Riemann-Christoffel. Et donc cette fois, on comprend mieux ce qui permet de définir une notion de courbure dans un espace. Bien entendu, le cas privilégié, c'est celui de la géométrie riemannienne introduite par Bernard Riemann, mais en fait, il y a des géométries encore plus générales qui permettent de donner naissance à une notion de courbure. Mais une autre chose qu'a fait Ricci Courmastro, et cette fois de façon complètement anodine, et il a fallu un peu de temps pour qu'on se rende compte à quel point cette notion était essentielle, c'est en 1904, il a montré qu'on pouvait extraire de cet objet très compliqué que j'ai déjà évoqué, le tenseur de courbure de Riemann-Christoffel, qui est un objet vraiment trop compliqué pour qu'on le comprenne de façon simple, dès qu'on n'est plus en deux dimensions, voire trois dimensions, par exemple dès la dimension 4, et il a introduit une sorte d'élément caché dans le tenseur de Riemann-Christoffel, qu'on appelle aujourd'hui la courbure de Ricci. Et il l'a fait pour des raisons géométriques qui paraissent limpides et qui se sont révélées parfaitement inutiles. Alors ces raisons géométriques, elles sont tout simples. Quand j'ai évoqué la théorie des surfaces, quand on coupait une surface par un plan perpendiculaire à la surface, donc contenant une normale, eh bien à ce moment-là, j'ai dit que la courbure des courbes évoluait entre un minimum et un maximum. Eh bien, cette courbure, en fait, donc d'une certaine façon, elle introduit sur la surface des directions privilégiées qui sont justement les directions de ces plans avec lesquels j'ai trouvé la courbure maximale, la courbure minimale. Eh bien, Cauchy-Courbastro se dit, si je me donne une métrique riemannienne, en fait, si j'extrais du tenseur de courbure un objet analogue à celui qui me décrivait la position de ma surface dans l'espace à trois dimensions, eh bien, je vais aussi trouver des directions privilégiées. Et d'une certaine façon, ces directions privilégiées doivent bien avoir un sens géométrique profond. Et donc c'est ce qu'il fait, il introduit cette courbe de Ricci, dont la nature géométrique est d'être analogue à celle d'un produit scalaire, et donc ça lui permet de définir ses directions principales, d'une certaine façon, attachées à la géométrie. La chose assez extraordinaire, c'est que, bien que cette motivation très géométrique soit limpide, elle n'a en fait pas permis de faire beaucoup de progrès. Mais il y a une espèce de Deus ex machina qui va venir d'ailleurs, d'en dehors des mathématiques, qui va donner à la courbe de Ricci un droit de cité, et non seulement un droit de cité, mais une importance capitale dans le développement de la géométrie riemannienne. La sollicitation extérieure aux mathématiques est venue de la physique théorique. En fait, des efforts couronnés de succès d'Albert Einstein de développer une théorie de la gravitation générale qui, d'une certaine façon, aille bien au-delà de la théorie de Newton. Dans la théorie de Newton de la gravitation, en fait, le champ de gravitation engendré par une particule en un point est un champ qu'on connaît bien en 1 sur la distance à l'endroit où se trouve la particule massique. Et en fait, les équations de champ sont aussi bien connues. La raison pour laquelle c'est une quantité qui est proportionnelle à l'inverse de la distance, c'est évidemment lié au fait que quand on applique ce qu'on appelle l'opérateur de Laplace à cette fonction, hein, sur la distance, on trouve justement seulement une singularité au point où se trouve la particule massique. Et donc le grand saut épistémologique que Einstein fait, d'ailleurs en partie dans des discussions avec son voisin à l'école polytechnique fédérale de Zurich, Marcel Grossmann, le saut épistémologique consiste à remplacer ce potentiel en 1 sur R de la théorie de Newton par un nouveau potentiel. Et là, cet objet est beaucoup plus compliqué que la fonction qui était le potentiel de gravitation de la théorie de Newton. C'est en fait justement une métrique de Lorentz, c'est-à-dire quelque chose qui permet de mesurer les longueurs comme on le fait dans le cadre de la relativité restreinte. Donc la relativité restreinte, introduite aussi par Einstein, était une théorie dans laquelle on s'est rendu compte qu'il n'était pas possible de séparer l'espace et le temps. Et qu'en particulier, l'imbrication de l'espace et du temps, donc l'espace-temps, était traduite par une nouvelle façon de mesurer les longueurs dans un tel espace. Et en fait, nous sommes habitués, quand nous mesurons les longueurs avec des instruments habituels de mesure, de trouver toujours des longueurs positives. Et bien là, à cause du rôle très particulier joué par les cônes de lumière, il fallait que la mesure des longueurs le long des cônes de lumière soit toujours des longueurs nulles, qu'à l'intérieur des cônes de lumière, les longueurs soient négatives, et qu'à l'extérieur des cônes de lumière, les mesures de longueur soient positives. Donc c'est cet objet géométrique qui correspond à la géométrie qui structure la relativité restreinte que Einstein va adopter comme nouveau potentiel remplaçant le potentiel de Newton. Et alors évidemment, quel saut fait-il ? Eh bien, il fait le saut analogue à celui qu'a fait Riemann à partir de la géométrie euclidienne en ayant une géométrie euclidienne généralisée, donc qu'on appelle géométrie riemannienne, dans laquelle l'instrument de mesure, ce qui permet de mesurer les longueurs, devient dépendant du point. Et donc, si je me place maintenant dans l'espace-temps d'Einstein, je vais faire la même chose, je vais m'intéresser en chaque point de l'espace-temps à un instrument de mesure, qui est donc cette fameuse métrique de Lorentz, donc qui peut avoir des valeurs nulles, négatives ou positives, déterminées par la façon dont sont situés les cônes de lumière. Eh bien, cette géométrie, la géométrie de l'espace-temps de la relativité générale, proposée par Einstein, va être déterminée par cette métrique. Et évidemment, on doit avoir maintenant une équation qui va décrire comment ce potentiel, donc cette façon de mesurer les longueurs dans l'espace-temps, est déterminée par les autres champs physiques. Et donc, c'est là le saut extraordinaire qui va être fait par Einstein, dans une compétition avec David Hilbert, qui était le grand mathématicien du début du XXe siècle, donc de proposer une équation qui va avoir deux membres, comme toutes les équations. Dans le membre de gauche, on va avoir quelque chose qui traduit la géométrie, donc cette géométrie qui est justement décrite par cette métrique généralisée, quelque chose obtenu à partir de cette métrique généralisée. Et dans le membre de droite, on va décrire tous les éléments de la physique, sauf la gravitation, puisque maintenant, on ne pense plus à la gravitation comme une théorie physique séparée. La gravitation, c'est simplement quelque chose qui change la géométrie. Donc on va écrire dans le membre de droite de l'équation d'Einstein, eh bien, tous les champs physiques qui peuvent créer, qui peuvent engendrer cette transformation de la répartition de gravitation. Donc ces fameuses équations d'Einstein, le membre de gauche, c'est là où se passe quelque chose d'extraordinaire, contient des quantités qui se ramènent strictement à la courbure de Ricci. Donc l'objet que Ricci avait introduit en 1904, qui finalement était très naturel, mais n'avait pas trouvé d'utilité géométrique, brusquement devient l'objet essentiel de la théorie de la relativité générale, puisque la façon dont la géométrie est présente dans les équations d'Einstein, c'est via la courbure de Ricci. Donc ça veut dire que comprendre la courbure de Ricci à partir de la métrique va devenir un exercice absolument essentiel. Et c'est malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ces équations d'Einstein sont des équations difficiles. Elles sont de même type que les équations que j'ai évoquées de Laplace pour le potentiel de gravitation de la théorie newtonienne, mais elles sont non linéaires, donc beaucoup plus difficiles à résoudre. Et en fait, il a fallu attendre à peu près 50 ans pour qu'Yvonne Choquet-Bruhat donne la première solution un peu générale des équations d'Einstein dans son travail de thèse. Malgré tout, très vite après l'introduction de la relativité générale par Einstein, très vite, on a eu des solutions particulières, en particulier celle proposée par Karl Schwarzschild, qui décrit une situation physique extrêmement importante, qui est de trouver le champ de gravitation qui est engendré par une étoile asymétrie sphérique statique. On découvrira beaucoup plus tard, là encore plus de 50 ans plus tard, que en fait c'est aussi exactement l'objet dont on a besoin pour décrire la situation physique engendrée par un trou noir. Donc on est dans cette situation assez étonnante que la généralisation de la géométrie par Riemann et d'une certaine façon assimilée via Grossmann par Einstein, mais la façon dont elle est présente pour la théorie physique, c'est seulement via un de ces éléments cachés dans la courbe de Riemann-Christoffel, qui est cette courbe de Ricci. Donc là, on est dans une situation assez intéressante, où un modèle mathématique, qui a été développé évidemment pour une pure motivation géométrique, se trouve absorbé par la physique, mais brusquement les physiciens impose aux mathématiciens d'aller regarder beaucoup plus près un élément particulier qui a été identifié dans cette géométrie, qui est donc cette courbe de Ricci. Cet usage des espaces courbes va bien au-delà de la relativité générale. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que même le concept de courbure, au-delà de la courbure des espaces riemanniens ou lorentziens, en fait, est devenu, pour les physiciens, mais aussi dans d'autres domaines, une façon de fabriquer des modèles extrêmement utiles. Juste pour reprendre le cas de la physique, L'interprétation aujourd'hui moderne des équations de Maxwell, celle de l'électromagnétisme, qui mélange donc l'électricité et le magnétisme, est justement de voir le champ électromagnétique comme étant la courbure d'un objet géométrique qui est défini par le potentiel électromagnétique. Et donc cette réapparition dans ce contexte de la courbure a donné lieu à un certain nombre de travaux physiques qui montrent que les différents modèles qu'on peut utiliser en physique théorique, modèles géométriques, en fait presque toujours tournent autour de cette relation entre un potentiel et le champ qu'il crée, et ce champ étant presque toujours une courbure. Alors un autre domaine dans lequel les physiciens ont aussi utilisé cette idée, c'est pour dans le cadre de la physique du solide, dont on sait que les choses qui sont extrêmement importantes dans la propagation des ondes en physique du solide sont liées aux défauts. Et donc, suivant la présence dans un cristal d'un défaut d'un type ou d'un autre, on fait apparaître de la frustration du cristal. Et cette frustration, elle peut être engendrée de la courbure positive, quand il manque un atome qui devrait se trouver à un certain positionnement dans le cristal, ou au contraire de la courbure négative quand on a un atome en trop. Donc c'est un défaut par manque ou un défaut par excès. Donc on voit qu'à ce moment-là, ces représentations géométriques et cette interprétation en termes de courbure sont devenues des outils conceptuels très importants en physique du solide. Mais en fait, c'est intéressant de voir aussi que dans le monde de la finance, la volatilité, qui est une des choses essentielles pour les financiers à comprendre et à, si possible, à maîtriser, en fait, peut s'interpréter aussi comme la courbure dans un certain champ décrivant l'activité financière. Il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, la courbure est devenue un ingrédient essentiel de beaucoup de modèles géométriques utilisés dans des champs des sciences extrêmement divers. Et ça, c'est une chose qui était évidemment complètement inattendue, mais qu'on doit souligner. Les mathématiciens, évidemment, ne sont pas restés à ces espaces lisses, même comme l'espace-temps. Les physiciens acceptent des singularités ponctuelles ou des singularités un petit peu plus compliquées, mais malgré tout ne se risquent pas à utiliser comme modèle pour décrire les théories physiques des objets extrêmement irréguliers. Les mathématiciens ont franchi cette étape et considèrent aujourd'hui des espaces très irréguliers. Et en fait, la vraie question qui s'est posée pendant longtemps, c'est est-il possible dans des espaces irréguliers, de définir la courbure. Et là, on est assisté à des progrès constants. Le premier à proposer ce genre d'espace était Alexandrov, un mathématicien soviétique. Mais aujourd'hui, vraiment, de nombreuses propositions utiles sont apparues, à tel point que des espaces dans lesquels simplement le fait qu'on puisse définir une distance entre deux points, ce qu'on appelle des espaces métriques, et le fait que cette distance puisse être réalisée par des courbes éventuellement irrégulières qui minimisent la distance, permet d'introduire des notions géométriques extrêmement importantes. Alors, parmi les exemples très concrets de ces espaces irréguliers, on peut penser à des graphes, et un des graphes aujourd'hui qui occupe beaucoup de gens, on peut penser aux graphes décrivant les liaisons du réseau Internet. Le réseau Internet est un objet mathématique assez compliqué, avec beaucoup de liaisons entre des points qui sont des points d'activité, enfin avec des ordinateurs où un certain nombre d'informations peuvent être traitées, liées entre eux par des réseaux. Et ensuite, évidemment, les choses importantes pour Internet sont les questions de sa stabilité en tant que système de communication. Les notions de courbure vont pouvoir y être définies en des termes un peu plus compliqués que les termes habituels, mais malgré tout qui permettent d'en déduire des propriétés géométriques intéressantes. La chose nouvelle et qu'il fallait imaginer, c'est que en fait, on n'est plus dans une situation où on peut calculer la courbure comme on le faisait dans les espaces réguliers. Par contre, on peut s'intéresser à des bornes sur la courbure. Donc on peut décrire pour un espace irrégulier si sa courbure est comprise entre certaines bornes. On ne peut plus la calculer exactement, mais malgré tout, les propriétés géométriques que j'avais évoquées sur le fait que, typiquement, quand on est dans des espaces à courbure négative, on a tendance à avoir une sorte d'explosion exponentielle de la diffusion de l'information, ou les espaces à courbure positive, on a l'impression d'avoir une sorte de concentration des choses, comme sur la sphère, tout ce qui part du pôle nord va au pôle sud, eh bien on a des propriétés analogues, mais cette fois en ayant simplement des bornes sur la courbure. Et donc ces espaces irréguliers ont maintenant complètement droit de cité en mathématiques et ont donné lieu à vraiment des travaux extrêmement profonds. Michel Gromov a été un de ceux qui a montré l'intérêt qu'on pouvait avoir à comprendre ces espaces irréguliers, à travailler sur des espaces irréguliers avec des bornes sur la courbure pour en déduire des propriétés de convergence, de les traiter comme des objets géométriques naturels sans avoir à vraiment finalement s'inquiéter de leur sauvagerie dans les irrégularités qu'on y constate. Parmi les espaces irréguliers que les mathématiciens ont appris à apprivoiser d'une certaine façon, il y a justement les espaces qui apparaissent dans la géométrie non commutative d'Alain Cohn. Alors évidemment, cette géométrie a été fondamentalement motivée par les théories physiques de la mécanique quantique en fait. Donc pour avoir des espaces qui permettent de rendre compte justement de la subtilité liée aux relations d'incertitude d'Heisenberg et donc qui effectivement ont comme conséquence qu'on ne peut pas à la fois connaître les positions et les vitesses sans une incertitude entre elles. Et donc, parmi les progrès fantastiques qu'Alain Cohn a fait dans son programme très très ambitieux de développer cette géométrie non commutative, c'est qu'il est parti d'une géométrie assez informe jusqu'à aujourd'hui avoir une géométrie riemannienne non commutative. Et là, évidemment, on est obligé de tenir compte du fait que l'espace sur lequel elle est bâtie est un espace irrégulier. Et la chose complètement fascinante, c'est que la partie dans les modèles qu'il a proposés, qui typiquement lui permettent de discuter du modèle standard des particules élémentaires, donc les modèles non commutatifs, eh bien, comme par hasard, une des quantités dont il a absolument besoin pour faire la théorie, donc qui est l'analogue du Lagrangien de la théorie du modèle standard, qui est à la base de cette théorie physique, eh bien, c'est de nouveau un concept de courbure dans cette géométrie. Mais cette courbure, le seul morceau qui en est définissable est strictement celui qui permet de définir, comme disent les physiciens, le Lagrangien, c'est-à-dire l'expression dont on va dériver les équations de champ. Et donc ça, de nouveau, on se trouve dans cette posture incroyable que la courbure est, ou une certaine façon d'exprimer la courbure dans ces espaces irréguliers, est la seule chose qu'on peut définir, et c'est la seule chose dont on a besoin pour s'en servir en physique. Donc il y a une sorte de rencontre étonnante entre ce qu'il est possible de faire mathématiquement et ce qu'il serait nécessaire de faire pour que cette approche mathématique puisse servir de modèle en physique. Je trouve ça assez fascinant de rencontre et d'une certaine façon ça souligne à quel point les développements de la géométrie sont assez inséparables de leur utilisation potentielle dans les théories physiques. Et y compris les théories les plus complexes. Le modèle standard, qui était un effort de longue haleine des physiciens pour rendre compte de toutes les particules élémentaires, est quand même un modèle qui a énormément d'éléments différents. Et comme on sait, on espère que les travaux du LHC à Genève ont permis de mettre la main sur le dernier constituant qui semblait manquer, qui était le fameux boson de Higgs. On n'en est pas encore tout à fait sûr, mais en tout cas, on a des vraies pistes dans ce sens. Et donc, la structure interne de cette théorie, telle qu'elle est présentée par Alain Cohn, et dans le cadre de sa géométrie non commutative, est encore un exemple supplémentaire, un exemple particulièrement illustratif de cette, de cette symbiose, de cette fusion entre les modèles géométriques et les modèles signifiants du point de vue physique. Alors il y a une chose encore plus étonnante qui s'est produite dans les 20 dernières années, qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, la courbure de Ricci est vraiment le cœur des équations d'Einstein. Einstein avait tendance d'ailleurs, quand il parlait de ses équations, à penser à un palais à deux ailes, une aile construite en marbre noble, qui était la partie géométrique avec la courbure de Ricci, et une partie construite en bois inférieur, qui était la façon dont les champs physiques, autres que gravitationnels, d'une certaine façon déterminent la gravitation. Pourquoi je dis ça ? Parce que les mathématiciens, progressivement, ont commencé à se dire que cette courbe de Ricci méritait d'être étudiée pour elle-même, et en particulier de la comprendre un petit peu comme les physiciens finalement la font apparaître dans une formulation des équations d'Einstein, où paradoxalement, alors que les équations d'Einstein parlent de l'espace-temps, donc un objet à quatre dimensions, en fait il y a une façon d'écrire les équations d'Einstein qui consiste à réintroduire la séparation entre l'espace et le temps. Autrement dit, à casser les équations d'Einstein en plusieurs niveaux, et cette approche, qu'on appelle souvent l'approche ADM, Arnowitz-Deser-Misner, ADM, justement fait apparaître une équation d'évolution dans laquelle l'évolution de la métrique sur une hypersurface du type espace, donc à trois dimensions, dans cet espace à quatre dimensions, donc la façon de mesurer les longueurs, comme je l'ai dit, fait apparaître des notions habituelles de longueur quand on regarde les dimensions spatiales. Les directions où la longueur est négative sont les directions au contraire qui sont les directions temporelles, et la jonction entre les deux est faite par les directions suivies par les trajectoires de lumière. Et bien, donc sur ces hypersurfaces du type espace, donc on trouve un espace à trois dimensions avec une géométrie à la Riemann, géométrie riemannienne, et bien quand on casse ces équations d'Einstein en séparant le temps et l'espace, eh bien, il y a un morceau de cette évolution qui peut apparaître comme une évolution de la métrique à trois dimensions, pilotée par la courbe de Ricci à trois dimensions. Donc, brusquement, ça donne l'idée de penser à cette courbe de Ricci, en fait, comme créant une dynamique dans l'espace des métriques. Et ce point de vue a été utilisé par les physiciens, mais les mathématiciens ont commencé à s'en servir en tant que tel. Et en fait, cette approche qu'on appelle aujourd'hui le flow de Ricci, puisqu'on essaye de faire évoluer une métrique en suivant la dynamique déterminée par la courbe de Ricci, eh bien, j'ai eu l'occasion de poser cette question la première fois. Est-ce que finalement ce flow existe? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment suivre cette évolution et est-ce qu'on peut vraiment la résoudre mathématiquement? Celui qui a vraiment fait le travail décisif s'appelle Richard Hamilton, il y en a d'autres qui ont contribué, comme Dennis Deturk, ont vraiment montré que ce flow de Ricci existait, au moins pour des temps courts. Autrement dit, on peut déformer une métrique dans la direction de sa courbe de Ricci et suivre cette évolution pendant des temps courts. Et Richard Hamilton a trouvé de cette façon des résultats géométriques absolument superbes sur les espaces à trois dimensions. Mais vraiment, là, le bouquet est venu des travaux de Richard Perelman, qui, lui, a repris à son compte cette approche dans un contexte où personne n'avait osé aller jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de s'intéresser à la fameuse conjecture de Poincaré sur les espaces à trois dimensions. Poincaré a posé la question de savoir si, quand on s'intéresse à des espaces à trois dimensions qui sont bornés, comme on dit, c'est-à-dire des espaces compacts, c'est la terminologie des mathématiciens, eh bien, s'ils sont suffisamment simples, alors simple pour Poincaré, ça veut dire que toutes les fois qu'on dessine une courbe fermée sur eux, on peut toujours déformer la courbe pour qu'elle se contracte sur un point. Donc c'est clair qu'un objet comme un tore, par exemple, une chambre à air, est exclu, puisque la chambre à air, si je fais le tour du trou de la chambre à air, à un moment, je ne vais pas pouvoir contracter ce chemin jusqu'à se fermer sur un point. Par contre, si je dessine une telle courbe sur une sphère, je peux toujours, ne serait-ce qu'en ramenant tout ce qui se passe en dehors du pôle sud vers le pôle nord, je peux toujours contracter. Eh bien, Poincaré avait posé la question, si j'ai un espace à trois dimensions fermé sur lui-même, compact on dirait, qui a la propriété que tout chemin fermé se contracte en un point, est-ce que à trois dimensions cet espace est nécessairement une sphère? Ça paraissait un pari très très ambitieux, puisque on a énormément d'exemples d'espaces à trois dimensions fermés sur eux-mêmes. Et en fait, Grisha Perelman a finalement résolu cette conjecture, et alors là, de la façon la plus étonnante, puisqu'il a mis une métrique arbitraire sur cet espace, il a fait évoluer cette métrique par le flow de Ricci. Il se pouvait très bien qu'à un moment, l'espace, à cause de cette évolution de sa métrique, se pince, c'est-à-dire qu'il y a un morceau de l'espace qui soit amené à se séparer du morceau qu'il avait. Il a été capable de suivre ce qui se passait lorsqu'il se passait cet accident, cette singularité, et de vérifier que les propriétés de départ qu'on avait mises, à savoir que, en particulier, les lacets se contractaient pouvaient être conservés, qu'on gardait suffisamment d'informations sur la métrique qu'on déformait pour qu'on puisse recommencer à déformer la métrique, et qu'en un nombre fini de pas, on se trouve avec un espace sur lequel il n'y a plus d'accidents. Et on sait que s'il n'y a plus d'accidents, la seule façon dont le flot de Ricci peut se converger, c'est vers une sphère toute ronde. Autrement dit, après avoir contrôlé la façon dont les accidents se passaient, on est parti d'un espace, on est arrivé à une sphère, et Grisha Perelman a pu montrer que les morceaux dont on se séparait à chaque fois étaient toujours eux-mêmes des sphères. Autrement dit, l'espace dont on est parti était obtenu à partir d'une sphère en attachant des sphères, et quand on attache des sphères à une sphère, on reste toujours sur une sphère. Donc finalement, grâce à cette approche, la question que posait Poincaré était une question de topologie, a priori dans laquelle la notion de longueur, de métrique, n'avait aucun rôle à jouer. Eh bien, en rajoutant une métrique arbitraire, puis en utilisant le flot de Ricci, et en le contrôlant, eh bien, Grisha Perelman a pu démontrer que la conjecture de Poincaré, qui était quand même une des grandes conjectures topologiques du début du XXe siècle, et nous montrer finalement que, en introduisant des idées métriques dans ce problème topologique, on pouvait finalement résoudre le problème topologique, qui était d'une certaine façon une preuve de l'importance capitale de la courroie de Ricci dans les problèmes de mathématiques. Et en se rappelant qu'un mathématicien a introduit la courroie de Ricci, les physiciens ont convaincu les mathématiciens de son importance, et finalement les mathématiciens sont revenus en prenant au sérieux cette importance pour résoudre d'autres problèmes de mathématiques. Donc un très beau cheminement entre des modes de pensée, des cadres de pensée très différents, qui montrent donc à quel point les espaces courbes sont aujourd'hui au cœur aussi bien des mathématiques que de la physique théorique.